Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul. Les êtres humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu.
Vers l'éducation nouvelle.
Bonjour, vous êtes bien sur JetFM 91.2 et vous écoutez Vers l'éducation nouvelle. Vous pouvez nous entendre tous les 2e et 4e samedis de chaque mois à 17h. Alors, aujourd'hui, qui est avec nous ? Alors, on a Charline à ma gauche.
Bonjour.
Camille.
Salut.
Camille à ma droite.
Bonjour.
Nafea.
Et salut.
Et Julie et Étienne à la technique. Et moi, je suis Théo et je serai l'animateur de cette émission. Alors, aujourd'hui, suite à une envie et une idée de Charline, on va parler des femmes, des hommes, des garçons ou des filles dans les pratiques sportives. L'idée, ça va être de discuter pour voir s'il y a une présence ou non de discrimination et de sexisme dans le sport. Charline, est-ce que tu peux déjà, pour commencer, nous définir le sport, s'il te plaît ?
La définition du sport que je peux donner, c'est une définition de Pierre Parlebas, qui lui définit le sport en 4 critères. Le premier critère, c'est des règles universelles. C'est-à-dire que si on prend le basket, on va jouer au basket de la même manière dans n'importe quel pays du monde. Le deuxième critère, c'est une institutionnalisation. C'est-à-dire qu'il y a forcément une fédération pour représenter ce sport. Le troisième critère, c'est un système de compétition et de championnat. Et le quatrième critère, c'est une action motrice ou une pertinence motrice particulière. C'est-à-dire que une action motrice, c'est le fait de mettre son corps en mouvement. Et qui a un geste particulier à maîtriser. C'est pour ça que les échecs, on ne considère pas que c'est un sport. Et donc voilà, on définit le sport en tout cas avec ces 4 critères, à la différence des activités physiques. Et ce qu'on appelle activité physique, c'est le fait de pratiquer, d'aller faire un footing, de faire un foot dans la rue. On va appeler ça plutôt de l'activité physique, même si ça peut reprendre des codes du sport.
D'accord, donc il faut bien que les 4 critères soient remplis pour qu'on puisse parler de sport, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ok, super, merci beaucoup. Donc là, on va commencer par regarder quelques chiffres, en fin de compte, de la représentation genrée, on va dire, des sports en France. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 8 700 000 licenciés et que 30% sont des filles ou des femmes et 70% sont des garçons ou des hommes. On a été chercher un peu plus loin pour voir dans quel sport étaient le plus représentés les garçons et dans quel sport étaient aussi le plus représentés les filles. Donc, premier sport où les garçons sont surreprésentés, c'est le foot, avec 94%. Donc, les filles sont moins de 6% des licenciés totaux de foot. Le rugby, on est à peu près sur les mêmes effectifs car il y a 6,3% de filles et donc 95,7% de garçons. Et vient en troisième position le cyclisme, avec 10% de filles et 90% de garçons. De l'autre côté, on trouve donc en sport où les filles sont surreprésentées, l'équitation, avec 83% de filles et donc 17% de garçons. La gymnastique, avec 80% de filles et 20% de gars. Et en troisième position, qui arrive bien derrière, il y a la natation, où les filles sont majoritaires, mais à 54%, donc pas énormément. Donc là, l'idée, ça va être de discuter entre nous pour essayer de savoir ce qui fait que dans certains sports, les garçons sont surreprésentés et dans certains sports, ce sont les filles qui sont surreprésentées. Est-ce que l'une d'entre vous a une idée, par exemple, pourquoi est-ce que dans le foot, on va dire que pratiquement 19 personnes sur 20 qui font du foot sont des garçons?
Moi, une de mes idées, c'est le fait tous les sports dits d'hommes, on va rallier ça à la question de la performance physique et la question de la compétition. Et les sports dits féminins, plutôt un truc autour de la représentation et de la création, moins de performance. Et après, je pense que ces questions genrées entre l'activité physique dit d'hommes, dit pour les hommes ou pour les femmes, ça touche aussi aux questions de genre en général. Ce qu'on pourrait attribuer à une femme, ça va être la douceur, l'esthétisme, la beauté, etc. Et pour les hommes, on va plutôt attribuer la force, oui, la performance, la compétition, etc., etc.
Ouais, effectivement, pour moi, c'est une question de aussi de. Enfin, c'était, je pense, déjà dès le début du sport, en fait, c'était pas une activité pour les femmes. Donc ça, c'est. Donc depuis tout ce temps-là, en fait, on a du mal à rattraper le truc, j'ai l'impression. Effectivement, c'était une question de virilité, de la femme est à la maison, et quoi, la femme en short derrière un ballon? Non, je crois pas. Et voilà, je pense que c'est une question de société. On n'encourage pas les petites filles à faire du foot, quoique peut-être un peu plus maintenant, mais en tout cas, à mon époque, c'était pas le cas. Et voilà, je pense que c'est un peu ça aussi.
Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce sera un retard pris, ou en tout cas, le sport aurait été conçu pour les garçons et les hommes dès le début. Et donc, on traînerait ça encore maintenant comme une sorte d'écart qu'on n'arriverait pas à réduire.
Ouais, mais pour comme dans tout, en fait. Pour comme dans le boulot, pour comme tout ce qui est dit physique et viril et performant et ceci et cela... Clairement, c'était pas pour les femmes, et je pense que dans le sport, effectivement, c'est la même chose.
Et donc, bon, ça, j'entends bien ce que tu es en train de me dire là. Et donc, si on prend à contrario les sports où les filles sont surreprésentées, on voit notamment dans l'équitation et la gymnastique, qu'est-ce qui pourrait être une caractéristique commune de ces sports? Contrairement, par exemple, au foot et au rugby, on est d'accord, où il y a un vrai passif masculin et du contact et de...
Bah, et de la... Je pense que c'est ce que disait Charline aussi, c'est une question effectivement de représentation de la femme, en fait. La danse, la gymnastique, c'est... Enfin, a priori, apparemment, la danse n'est pas considérée comme un sport, mais oui, pour moi, c'est des pratiques où on représente le corps de la femme et peut-être parce que les mouvements de gymnastique, c'est plus doux, donc on va peut-être plus proposer ça aux filles, alors que le foot ou le rugby, c'est des choses qui a priori semblent plus physiques et plus physiques, enfin avec plus de contact en tout cas. Et voilà, c'est une vision, je pense, de la femme.
Je pense que c'est aussi ce que tu disais au début, qui historiquement, le sport a été fait pour les hommes, pour les garçons. Et du coup, après, les femmes et les filles sont arrivées à pratiquer le sport, notamment via l'école ou via les loisirs extrascolaires. Et sauf que sur chaque sport, une étiquette a été mise, que ce soit sur l'équitation, le foot, la gym. Et du coup, ça devient hyper compliqué aujourd'hui de se détacher de ces étiquettes-là. Et du coup, c'est là où, une fois de plus, l'éducation a un rôle hyper important à jouer. Et après, on va revenir sur ce qui va être dit à l'école aussi. À l'EPS ou des choses comme ça, quand les profs vont avoir, des fois même inconsciemment, des propos qui vont être tenus. Je sais pas, une fille qui va marquer un but au foot, on va dire ah, super, t'es hyper fort, c'est hyper bien. Un garçon qui va marquer un but, ah, c'est bon, tu continues comme ça, tu renchaînes. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont être différenciées. Et du coup, c'est comment on arrive à sortir de tous ces mécanismes qui ont été mis en place pour venir déconstruire ce que l'histoire nous a amené, en fait.
Charline, tu veux dire quelque chose?
Oui, je peux rajouter un truc. Moi, ça me fait penser aussi au fait que si on parle de sport, de femmes qui font du sport à haut niveau, ce qu'on montre dans les médias ou comment les médias vont interviewer des femmes, on rattache toujours à la performance que la femme peut avoir dans un sport, à ce côté physique et esthétique et la beauté. Et ça nous donne un peu l'impression que ce que les métiers ils montrent, c'est que les femmes, elles font pas du sport pour elles, elles font du sport pour être regardées par les hommes. Alors qu'à l'inverse, les hommes, ils font du sport pour eux, mais pas pour être regardés de la même manière quand on passe à la télé sur un match de basket ou de hand. Et que, voilà, après, ça me fait poser un plein d'autres choses, où peut-être qu'on discutera plus tard, mais voilà, en tout cas, cette question de la médiatisation.
Et aussi, quand t'as dit que les femmes, elles faisaient pas forcément du sport pour se faire plaisir, je crois que t'as dit ça.
Ouais.
Je pense qu'il y a aussi un truc de, peut-être on n'a pas tous le même but dans le sport. Enfin, pourquoi on pratique du sport? Et il y en a aussi, c'est pour maigrir. Donc c'est pas du tout pour le plaisir et c'est encore du coup, enfin le corps il est encore en question et quelle image on donne.
Oui, mais ce qu'on discutait tout à l'heure, de dire que les femmes à partir de certains âges elles vont se mettre à faire de l'activité physique, mais pour rester en forme ou pour garder un corps qui reste assez mince, attrayant pour, aux yeux des autres personnes, et que oui, c'est pas le même objectif des fois pour parce que on dit toujours que les femmes faut qu'elles soient minces, qu'elles soient jolies, etc., etc. Donc du coup, il y a beaucoup de femmes qui vont aller faire du sport juste pour garder une ligne et pas dans cet objectif de performance ou de d'envie de faire un sport collectif, de se donner à fond, de voilà, pas les mêmes objectifs que les hommes pourraient se fixer en allant faire du sport.
Je vous ouvre une question à laquelle j'ai pas la réponse, mais c'est pas ce qu'on est en train de voir un petit peu sur la pratique de la course à pied chez les hommes de 40-50 ans qui n'en faisaient pas avant et qui s'y mettent vachement. J'ai l'impression qu'il y a comme une mode qui est en train d'arriver. Soit c'est une mode, soit c'est juste moi qui commence juste à voir ce truc-là. Et du coup, avec ce truc de faire attention à son corps, les hommes qui avant pouvaient être moins dans cette cette attention-là, et aujourd'hui ils vont avoir une vigilance un peu plus de soin de soi et du coup d'aller s'entretenir et du coup d'aller courir le dimanche matin, le jeudi soir, le quand tu veux. J'ai l'impression que c'est un truc qui arrive plus aujourd'hui sur le côté masculin qui existait pas avant. Mais peut-être je me trompe.
Non, si, je pense qu'effectivement ça arrive, mais je pense que ça arrive depuis peut-être 10-15 ans où il y a eu le fameux slogan manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, et les gamins ont intégré ça, et je pense qu'effectivement il y a une génération qui voit le sport comme effectivement un critère de bien-être et être bien dans son corps et qui touche aussi les hommes aussi, du coup, je pense.
Ça marche. Et ben maintenant, je vous propose d'écouter Boys Don't Cry de The Cure. Vous êtes toujours sur JTFM 91.2 et vous écoutez Vers l'éducation nouvelle.
Alors, du coup, on a enregistré quelques interviews de filles de notre équipe de foot avec Charline. Donc, je sais plus toi si c'était pendant le match. Enfin,
juste avant le match.
Moi, ouais. C'était pendant le match, en fait, où j'ai interviewé Flora sur le bord du terrain pendant que l'équipe première de notre équipe de foot, de notre club de foot, jouait son match de coupe. Voilà. Salut Flora.
Salut.
Donc en fait, je suis là pour te poser quelques petites questions sur ta pratique autour du football en tant que femme.
D'accord.
Est-ce que toi, tu aurais déjà vécu des expériences discriminantes en tant que femme dans le foot, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu trouves discriminantes qui peuvent te heurter
Ouais, en fait, moi, j'ai pris conscience de... C'est pas vraiment une discrimination, mais j'ai pris conscience de quelque chose à l'âge adulte. J'ai commencé le foot à 23-24 ans.
Ouais.
Et finalement, moi j'ai toujours fait du foot petite, dans la cour de récré, dans la rue avec les voisins. Mes parents habitaient derrière un terrain de foot, et pourtant mes parents ne m'ont jamais proposé de faire du foot.
Ouais.
Et je pense que c'était même pas dans leur... c'était pas possible pour eux de se dire que leur fille allait faire du foot, alors que j'en faisais tout le temps finalement. Et donc ils m'ont essayé à plein de sports, le tennis, le basket... plein de sports peut-être genrés plus pour les filles, je sais pas. En tout cas, le foot, et pourtant c'était une évidence que j'en faisais au quotidien, tout le temps, et j'en ai jamais fait en club. Et j'ai pris conscience de ça arrivé à l'âge adulte, que finalement, j'avais toujours eu envie de faire ça, et je m'étais moi-même interdit de demander à mes parents d'en faire, et mes parents ne m'avaient jamais proposé d'en faire. Donc je sais pas si c'est pas vraiment une sorte de discrimination, mais c'était même pas dans l'ordre des activités à proposer à une jeune fille. Je sais pas, on commence à faire du sport à 7-8 ans, un truc comme ça, et ça faisait même pas partie,
ouais,
alors que toutes les conditions étaient réunies pour, mais c'était pas envisageable.
Ouais. Et tu trouves que ça a changé maintenant ? Enfin, les générations qui arrivent là.
Ouais, j'ai l'impression. On voit, en tout cas, qu'il y a beaucoup plus de petites dans les catégories. Enfin, en tout cas, dans le football féminin, qu'il y a de plus en plus de petites dans les catégories juniors. Donc, j'ai l'impression que ça change. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire pour proposer en fait tous les sports à toutes les petites filles, et inversement pour les garçons. Et je pense que les parents véhiculent encore pas mal de clichés ou s'interdisent en fait de proposer à leurs gamins de faire un peu tous les sports. Quoi.
Ok. Merci Flora.
De rien.
Et puis bon match.
Merci.
Allez, salut.
Alors l'idée là, ça va être que chacune d'entre vous nous parle un petit peu du sport qu'elle fait, à quel âge elle a commencé et quelle a été la réaction de vos proches de l'époque, que ce soit vos parents, vos amis, et comment vous avez vécu tout ça?
Moi, je peux commencer, mais c'est pas considéré comme une pratique sportive.
C'est pas grave. Hein.
Considéré comme une pratique artistique, mais moi, quand j'en fais, je considère que je fais du sport. Je fais du trapèze depuis que j'ai 10 ans, donc ça fait 17 ans. J'ai fait des pauses, mais au niveau de ma famille, il n'y a pas eu de soucis. Enfin, il n'y a pas eu de soucis. Pas eu de réaction particulière. Ça a plutôt été au niveau quand j'ai commencé à arriver au collège et que je disais que je fais du trapèze, directement c'était le cliché. Ah ouais, t'as un petit tutu, un petit string à paillettes. Donc non, pas du tout. Je ne suis pas du tout un string à paillettes. Et voilà, je pourrais en reparler après. Mais voilà, mais ça c'est un autre débat. C'est l'image du cirque qu'on peut avoir à la télévision ou ailleurs. Et non, faire du trapèze, c'est bien faire des abdos, faire de la muscu, avoir mal aux mains, avoir mal aux jambes. C'est chouette, mais c'est pas que quelque chose de joli à regarder. Il y a bien pour moi un vrai travail du corps aussi qui se passe là.
Moi, j'ai fait du judo pendant 5 ans. Et j'ai commencé à 6 ans juste en regardant mon frère en faire. Parce que j'adorais le regarder, ça me faisait super rire. Et un jour, le prof m'a dit « Viens, en fait, mets un kimono ». J'en ai fait pendant 5 ans. Et à ce moment-là, c'était dans une campagne, donc il y avait une super ambiance entre tout le monde et tout le monde combattait ensemble. Et après, je suis arrivée dans une ville et on était que 2 filles ou 3 filles pour 60 sur le tatami. Et à un moment, les garçons, ils voulaient pas combattre. Donc j'ai fait qu'un an, après j'ai arrêté. J'ai fait d'autres sports et maintenant je fais de la lutte. Et du coup à la lutte, j'ai fait un an avec une autre fille qui a commencé en même temps que moi, mais elle a arrêté. Et sinon je suis toujours toute seule sur le tapis. Et en plus, ma salle, elle est dans un... avec une salle de muscu. Et je vois vraiment pas beaucoup de filles, à part... des fois, il y a le pilate. Là, il y a que des filles, bizarrement. Voilà.
Moi, j'ai commencé le foot à 9 ans, en club. Et j'avais commencé à jouer une ou deux années avant dans la cour de l'école primaire. Et jouer avec les garçons. La première année, j'étais la seule fille. Et après, au fur et à mesure des années, on était deux ou trois. Et moi, je me souviens encore le jour où je me suis vue aller demander à ma mère si je pouvais m'inscrire au club de foot à la rentrée. Et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'elle allait me dire « Non, c'est mort, tu fais pas de foot, tu fais un autre sport, du tennis, de la natation. » Et j'étais persuadée qu'elle allait pas vouloir. Et là, elle m'a juste dit « Bon, non, carrément, on va t'inscrire quand tu veux. » Et voilà, du coup, ça a toujours été considéré comme un sport non genré dans le milieu familial. Et toi, Camille ?
Eh ben, moi, je fais du foot aussi. J'ai commencé à jouer au foot très tôt, en fait, dans la cour de l'école, dans la rue. Et je suis arrivée en club qu'à partir de 16 ans. Et je suis très vite partie parce que... Donc, c'était que entre filles. Mais moi, j'aime pas trop tout ce qui est compétition, tout ça. J'en ai fait un peu en STAPS aussi, mais je suis vraiment revenue en club qu'à Nantes, en fait, il y a 3 ans. Donc j'avais fait une pause de quasiment 15 ans. Enfin, je jouais dans la rue, je jouais pour moi, mais j'étais pas très club. En fait, quand j'étais petite, moi, c'était jouer avec les garçons. Et en fait, bizarrement, quand je jouais avec les garçons dans la cour d'école, j'étais contente parce que au début, c'était ouais, t'as la fille dans ton équipe, puis après, c'était oh là là, la fille, regarde ce que t'as mis pour une fille et tout. Et moi, forcément, c'était hyper valorisant. Alors qu'en fait, quand y repense, c'est pas du tout cool. Ça veut dire que les filles jouent moins bien, qu'elles ont pas leur place ici, mais elles, oh là là, elles y arrivent. Mais bon, moi, j'aimais ça gamine. Et puis c'est vrai qu'après, en club, de jouer avec les filles, tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'a... C'était la compétition, tout ça, quoi, qui me plaisait pas beaucoup. J'ai jamais eu trop de problèmes. Mes parents, je pense que ma mère, ça lui plaisait pas énormément, mais elle m'a laissé faire. Mon père était très content, je pense. Enfin, j'ai jamais vécu, en tout cas, de grosses discriminations étant petite. C'était plutôt, ouah, la fille, elle sait jouer au foot et elle t'a fait un petit pont, quoi. Voilà.
Je voulais juste revenir sur par rapport... au fait que je fasse de la lutte et ce que ça a amené dans mon entourage comme réflexion et des choses comme ça. Bah, mon surnom, c'est devenu Brutus. Et sinon, je suis toujours le bonhomme. Enfin, je suis un bonhomme, quoi. Et il y a souvent des garçons qui veulent combattre contre moi pour jouer, bah moi j'adore ça, donc ça me dérange pas du tout. Mais c'est toujours un rapport de force qui est différent qu'avec d'autres personnes qui seraient pas une fille du coup.
T'inquiète, moi aussi quand j'étais petite, on surnommait le garçon manqué parce que j'allais jouer au foot tout le temps dans la cour de l'école et ouais. J'étais la seule fille, du coup.
Mais ça, tu l'as mal vécu, du coup, le fait qu'on te dise que t'es garçon manqué, que tu vas jouer au foot dans la cour.
Pas forcément, je pense. Ouais. Ça me dérangeait pas parce que je considérais que je jouais aussi bien que les garçons au foot. Mais oui, ça peut être très très mal vécu de qu'on t'appelle le garçon manqué. Bah oui, parce que t'es plutôt en jogging. Qu'en robe, parce que c'est pas très pratique pour jouer au foot, d'être en robe.
Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, Charline, moi je sais que j'ai été animatrice jeunesse. Et du coup, dans une petite ville à côté de Nantes, là, enfin une petite ville, c'est pas une petite ville non plus. Et en fait, c'est vrai que j'ai remarqué que le foot, auprès des jeunes, en tout cas qui fréquentaient l'espace jeune, auprès des nanas, des filles, là, il y en avait beaucoup qui faisaient partie de l'équipe de foot féminine du coup de Couëron. Et c'était carrément OK. par rapport à, je pense, quand moi j'avais leur âge où c'était plus compliqué. Là, je voyais qu'il y avait une énorme solidarité autant entre l'équipe masculine que l'équipe féminine. C'est-à-dire que quand les gars y jouaient, les filles, elles allaient les voir. Quand les filles jouaient, les gars venaient les voir. Et du coup, les filles que, du coup, moi, que j'ai connues qui étaient dans cette équipe de foot féminine, elles n'avaient pas l'air d'avoir trop de réflexions sur « Ah, t'es pas féminine parce que tu joues au foot ». C'est marrant parce qu'elles avaient un peu leurs deux facettes, mais qui étaient logiques, en fait. Quand elles allaient faire du foot, elles étaient en survêt. Comme tout le monde avec leurs crampons, quoi. Et quand elles étaient au collège, elles s'habillaient comme elles avaient envie de s'habiller, soit en jean, soit en robe, soit en short. Et il y avait vraiment ce truc de c'est devenu une pratique sportive, en fait, normale. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir que dans la génération qui arrive, là, des 14-17, que c'était OK. En tout cas, dans ce groupe-là, hein, je ne dis pas que c'est quand ça partout, mais dans ce groupe-là, c'était OK. Et c'était hyper agréable, du coup, de voir que ça avançait, que ça avance dans ce sens-là. Mmh.
Bah, parce que je pense que le foot, c'est en train de se normaliser, parce qu'on en a beaucoup parlé. L'année dernière avec la Coupe du Monde, ça n'empêche pas tout ce qui peut y avoir de discriminant et de sexiste, bah, ou de sexisme en général dans le foot. Mais en tout cas, c'est en train de se normaliser parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. Et après, là, on parle que de foot, mais je pense qu'on pourrait parler d'autres sports.
Mais j'ai l'impression que le sexisme, en fait, il est maintenant plutôt institutionnalisé. C'est-à-dire qu'avant, j'ai l'impression c'était un peu dans la pratique, je sais pas, mais c'était oui, effectivement, t'es une fille, ah, tu fais du foot, ça, effectivement, comme tu dis, dans la nouvelle génération, on le voit de moins en moins et c'est cool. Par contre, j'ai l'impression que la violence sexiste, elle est dans les institutions, mais plus, et être une femme pro, être arbitre femme et tout ça, j'ai vraiment l'impression que la violence, elle est là, beaucoup plus que sur les terrains de foot dans les quartiers où.
Bah même on le voit au niveau pour le bac, tous les contrôles qu'il y a en EPS au collège et lycée, enfin au collège je sais pas, mais au lycée en tout cas, les barèmes ils sont complètement différents pour les filles et les garçons, donc voilà.
Ouais. Je vous propose qu'on écoute la deuxième interview que vous avez faite, les filles.
Ouais. Salut Célia, est-ce que tu pourrais me raconter une expérience ou un moment vécu où tu as été discriminée en tant que femme dans le foot?
Alors c'est quand j'étais petite que je jouais au foot, j'avais genre 10-13 ans quoi on va dire. Et j'ai jamais pu continuer à jouer dans une équipe de foot tout simplement parce que y avait pas de filles et que les garçons voulaient pas forcément jouer avec une fille. Et après il y a un âge légal aussi à partir duquel en tous les cas il faut séparer filles et garçons. Et en Ardèche, il n'y avait pas beaucoup d'équipes, donc je suis allée faire du cheval, voilà.
Ah cool. Et est-ce que tu penses que ce serait intéressant de changer ça aujourd'hui pour permettre aux filles de jouer avec les garçons?
Je pense que maintenant déjà il y a beaucoup plus de petites filles qui jouent au foot, donc je pense déjà il y a beaucoup plus d'équipes, donc je pense que ça va être plus simple pour elles, notamment dans les grandes villes. Après je pense qu'en Ardèche rien n'a changé et je pense que pour ce genre de département ça serait intéressant de garder une mixité plus longtemps, parce que mine de rien, même si en effet il y a au bout d'un moment une différence physique, moi j'ai carrément dû arrêter alors que voilà, j'aurais très bien pu continuer dans une certaine mesure à jouer avec les garçons et à m'entraîner ou au moins un minimum jouer un peu au sport qui me plaisait quoi.
Ok, merci.
C'est bon, ça va?
Est-ce que tu peux me raconter une expérience que tu as vécue où tu t'es sentie discriminée en tant que femme dans le foot?
Typiquement quand on joue au futsal en mixte, généralement on est obligé de faire ses preuves avant d'avoir un ballon ou une passe ou une occasion devant le but. Une fois que l'occasion est faite, c'est bon, mais il y a toujours une appréhension du côté des hommes avant de passer le ballon.
Une fois qu'ils se sont rendus compte que tu savais jouer un peu au foot,
voilà, c'est ça.
Plus considéré.
C'est ça, exactement.
Oui, donc là, en fin de compte, cette interview, elle parle un peu de la mixité sur... dans la pratique du sport, et quand bien même cette mixité existe, j'ai l'impression que votre coéquipière elle sent que c'est pas complètement abouti et que même si elle joue avec des garçons, elle reste malgré tout considérée avant tout comme une fille avant d'être un joueur ou une joueuse comme les autres. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses comme ça? Est-ce que ça fait écho un petit peu à ce que vous avez pu rencontrer dans votre parcours sportif? Est-ce que vous avez envie d'en parler?
Plein. ça, en tout cas, dans le foot, ça arrive régulièrement. En fait, parce que je pense les gens ont des préjugés et ils se disent, ils pensent pas. Alors, je pense de manière inconsciente hein, d'ailleurs, ils pensent pas que une femme sait jouer au foot. Du coup, on va faire un match et t'es une femme et on va pas forcément te donner le ballon. Et c'est une fois que on t'a donné le ballon et on voit que tu sais à peu près jouer, que tu t'es imposée physiquement, on va te reconnaître en tant que joueuse de l'équipe. Et puis après, tu vas, une fois que t'as fait ça et qu'on t'a reconnue et que t'es considérée, bon, tu vas avoir toutes les réflexions des hommes qui vont venir te voir au fur et à mesure ou à la fin du match. Moi, j'ai fait un tournoi il y a 2 ans où, du coup, un des mecs de l'équipe en face, il est venu me voir parce que j'avais marqué un but et on était en équipe mixte. Et il était venu me voir pour se justifier en disant « Non, mais je l'ai fait exprès si t'as marqué le but. » Voilà. Et en tout cas, il y a pas mal de personnes qui se donnent... qui aiment bien venir faire des réflexions. Oui, qui viennent te demander « Ah, mais tu fais du foot depuis quand ?» depuis longtemps, mais et alors en fait tu vas est-ce que tu demandes ça à un mec qui est avec nous en train de jouer? Non. Ouais. Donc
puis il y a ceux aussi qui viennent un peu pour la mascarade quoi. Tu les vois au bord du terrain, tu les entends et ça rigole et ça pour eux c'est comme aller voir je sais pas un spectacle enfin one woman show, j'en sais rien, mais voilà, pour eux c'est ils le prennent pas au sérieux en fait. Et moi j'avais aussi des copains des très bons copains et qui sont non mais c'est pas méchant hein. c'est pas méchant, je dis juste que bon c'est quand même pas pareil, dis-le, c'est quand même pas pareil. Je veux dire, oui tu sais jouer, mais quand même il y a toujours le mais qui arrive et il y a aucun argument en fait. Mais quoi, c'est pas pareil, vas-y donne-moi un ballon, on va faire des jongles hein, tu sais, mon pied il est pareil hein, on a la même morphologie, donc voilà, c'est des par petites touches comme ça, enfin en tout cas moi ça a jamais été violent, enfin il y a jamais eu de truc, t'as des réflexions, mais bon après tu te blindes et puis tu peux y répondre. C'est vrai que quand t'es plus jeune c'est un peu plus compliqué je pense, mais ouais, faut pas laisser passer quoi.
Ouais, moi ça a plus été à l'école en fait, mais du coup pas au foot parce que je jouais pas au foot pendant la récréation, mais pourtant les garçons si, et enfin plutôt avaient l'espace de la cour parce que ça prenait tout l'espace. Du coup, nous, on était sur les côtés, je pense. Mais en fait, ça me fait plus... ça m'est arrivé plutôt, du coup, au hand. Mais j'en garde pas des souvenirs. Voilà. Mais hier soir, à un moment, on était 2 filles et 4 garçons. Ou 5 garçons, je sais plus. Et il y a un garçon qui commence à parler de foot et tout. Et il demande à tous les garçons, on était autour d'une table, s'ils aiment le foot. Et il demande pas aux 2 filles, enfin à nous, enfin du coup à l'autre fille et à moi. Et du coup, c'est pas pareil, c'est pas sur le terrain ou quoi que ce soit. Mais déjà à ce moment-là, j'étais là-bas. Pourquoi tu ne me demandes pas? Et voilà.
Ouais, je pense que pour eux, c'est ancré en fait, parce que là, tu parlais justement de la cour d'école et ça, c'est hyper intéressant. Il y a plein d'études qui sont sorties là cette année sur l'organisation d'une cour depuis toujours. Et effectivement, l'organisation d'une cour, généralement, t'as le terrain de foot au milieu de la cour, ouais, les garçons qui jouent et les filles qui gravitent autour. Alors, soit qui font des cours en discutant, des tours en discutant, parce que bon, les filles, ça discute, ça a des choses à se raconter. Et des filles qui n'ont pas accès à ça, en fait. Et je sais qu'il y a des écoles, des équipes éducatives qui essayent de mettre en place des récréations sans ballon, en tout cas pour que tout se mélange un peu et que tout le monde ait accès à cette chose centrale en fait. Et je pense que les garçons depuis toujours en fait ont ça aussi dans la tête et c'est hyper dur je pense aussi pour eux d'en sortir. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne pose pas la question à une fille, est-ce que toi t'aimes le foot, ça vient même pas à l'esprit en fait je pense.
J'avais une anecdote comme ça quand j'étais en primaire, je pense, je devais être en CE2, je me rappelle pas trop. Et j'avais un copain qui m'avait dit pendant l'école, pendant la classe, que je pouvais venir jouer au foot avec eux le midi ou pendant la récré. Du coup, j'étais hyper contente. Et du coup, je sors. En fait, il part jouer avec ses copains. Et je me dis, je me mets sur le côté du terrain. Et peut-être quand il va me voir, il va me dire, viens jouer. Et en fait, j'ai 2 profs là, qui sont venus m'écarter, qui m'ont dit, Nafé, attention, tu pourrais te prendre un ballon dans la figure et tu pourrais te faire mal. Et du coup, ils m'ont éloignée par gentillesse du terrain. Donc, je n'étais plus du tout dans l'angle de vue de mon copain qui devait m'intégrer dans l'équipe. Et du coup, je ne suis jamais retournée près du terrain pour jouer au foot. Voilà.
Ça veut dire qu'en fin de compte, dès le plus jeune âge, parce que là on parle de cours d'école de primaire,
primaire collège, ouais.
En fin de compte, que tu sois un gars ou que tu sois une fille, le regard posé sur toi, que ce soit par les gens qui font du sport ou même par les enseignants, il est complètement différent. Je pense que c'est un élément de réponse du fait que les filles ont moins accès au foot.
Ou moins accès au sport en général, puisque je pense sur l'éducation, sur l'éducation genrée, dès le plus jeune âge, on va permettre plus aux petits garçons d'aller jouer dehors et moins aux petites filles. Ça passe par les jeux ou les jouets qu'on va offrir aux enfants très jeunes. Et oui, du coup, je pense qu'on va plus inciter les petits garçons à sortir, à aller dehors, à se dépenser que les petites filles. Du coup, je pense que ça part vachement de là où on va aller plus inciter, du coup, les garçons à aller faire du sport dès le plus jeune âge et beaucoup moins les petites filles.
Et un truc qui est intéressant aussi autour, tu parlais des profs de sport et compagnie. C'est le vocabulaire qui va être utilisé, qu'on utilise, mais en tant que prof, en tant qu'animateur, en tant que personne qui côtoyons du coup les enfants, les adolescents. Et moi, j'ai pu le voir soit dans le cadre de sport à l'école ou même à l'école de cirque, des fois inconsciemment, ou une fille qui va réussir à faire un truc, on va dire ah, « super, t'es hyper forte », un gars qui va réussir, on va lui proposer directement d'aller à l'étape supérieure. Je sais pas si c'est clair ou pas ce que je veux dire. C'est une fille qui arrive à faire ça, déjà c'est super bien, c'est cool, faudrait pas aller plus loin. Un garçon qui arrive à faire ça, c'est ah bah si t'y arrives, c'est que c'est trop facile pour toi. Du coup, on va t'amener à faire autre chose.
Et du coup, en plus, à ce moment-là, les garçons ils sont toujours amenés à aller plus loin, alors qu'en fait, les filles, bah c'est déjà bien ce qu'on a réussi, donc on va pas essayer d'aller plus loin.
Faudrait pas en faire trop non plus, t'es qu'une fille.
Tu pourrais te faire mal.
Mais non, mais puis le rapport au corps après,
Faut pas non plus qu'on soit trop musclé, quoi.
Ouais, une fille trop musclée, c'est pas forcément joli. Enfin, il y a tous ces trucs-là qu'on va entendre, en fait, Enfin, moi, je l'ai entendu plein de fois. Hein. J'ai des potes qui me le disent en rigolant, mais l'année dernière, en 3 mois, j'ai pété 3 chemises. Parce que j'avais dû m'entraîner plus que d'autres fois. Et du coup, j'ai pris des épaules. Et directement, alors, Manodou, tu te détends. En fait, ça va, tranquille. Voilà, quoi. C'est pas grave, ça arrive, en fait. Et pourquoi une fille pourquoi une fille ne pourrait pas avoir un corps musclé? Qui l'a interdit, c'est marqué quelque part. Je suis pas au courant.
Et moi, la lutte aussi, il y a la remarque de mon prof tout le temps. Oui, et du coup, faut que vous fassiez attention à Camille parce que il faut pas la casser, quoi. C'est assez insupportable parce que du coup. Je pouvais pas trop m'améliorer à des moments parce que je me retrouvais toujours avec une personne qui, enfin, il était là vraiment pour s'amuser, il en avait un peu rien à faire de la lutte, ça l'arrangeait que je sois avec cette personne parce que comme ça j'avais pas de risque d'avoir quelque chose.
T'avais pas de blessé.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on faisait que de parler, on faisait pas grand chose des fois, quoi. Et du coup, c'était pas très intéressant d'aller à la lutte aussi.
Oui. Et moi, ça me fait penser à des réflexions qu'on a pu me faire quand j'étais petite sur les terrains de foot, des entraîneurs adverses qui font des réflexions à leurs joueurs. Non, mais tu vas pas te faire tacler par une fille, te laisse pas bouger, c'est qu'une fille. C'est pas possible, on s'est pris un but par une fille. Voilà, je pourrais en dire encore plein d'autres, mais... Mais oui, et en plus, c'était des adultes qui faisaient ces réflexions-là à des enfants où on avait 9, 10, 10 ans, ouais, 11 ans. Et du coup, ça leur inculque déjà quelque chose de... Forcément, les filles, elles sont inférieures dans ce sport. Et toi, tu dois être meilleure, quoi.
Mais il y a une pratique sportive que j'ai découverte il y a 3 ans. Et où, du coup, j'ai plutôt l'impression que la mixité, elle est hyper présente. C'est l'escalade. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'escalade ou si vous êtes déjà allé dans une salle d'escalade. Déjà, rien que par rapport aux gens qui y sont, tu sais, vraiment, garçons, filles, je sais pas si c'est du 50-50, j'ai pas les chiffres, mais c'est... En tout cas, il n'y a pas une plus grosse partie d'hommes qu'une plus grosse partie de femmes. Et c'est vraiment... J'en pratique pas en club, mais juste je suis allée en pratiquer avec des amis. Et vraiment, c'est hyper agréable. Parce qu'en fait, chaque personne est là à s'observer, mais dans de la performance et dans de la technique. et du coup va s'accompagner en fait, je sais pas, c'est quelqu'un qui est en train de grimper une voie et les autres ils vont être en dessous à aider, à dire bah là il y a cette prise là, mais en fait on s'en fiche si c'est un homme ou une femme qui est sur la voie. Enfin, j'ai trouvé, c'est une des premières pratiques sportives que je découvre où vraiment il y a ce truc de mixité et de où il y a aucun souci et c'est hyper agréable. Du coup, vous pouvez aller faire de l'escalade, c'est chouette.
Parce qu'il n'y a pas ce truc de performance ou de compétition envers quelqu'un aussi.
Bah, il y en a pourtant en escalade.
Ouais, quand si, tu fais des compétitions d'escalade. Je pense qu'il y en a. Puis même, c'est aussi le fait d'arriver. Je ne sais pas exactement comment marche l'escalade, mais tu as des levels. Tu as fait telle voie. C'est la voie d'au-dessus la plus difficile. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un sport où les gens s'encouragent à dire waouh, la vache, t'as réussi, ça y est, tu l'as fait, quoi. Enfin et tout, t'as galéré, mais ça y est, tu y es.
Au-delà de la mixité, c'est-à-dire que quand tu vas à une compétition d'escalade, les gens qui vont être sur les mêmes voies à concourir, ils s'encouragent entre eux. Du coup, c'est bien, je pense, une mentalité globale au sport qu'est l'escalade. Mais du coup, c'est hyper agréable.
Mais moi, je me demande, je me pose la question, on me l'a soufflé dans l'oreillette. C'est l'escalade, ça reste un sport qui n'y a pas de contact entre les personnes. Et est-ce que ça peut expliquer aussi cette plus grande mixité qui existe? Parce que, en fin de compte, on peut qu'on soit un garçon ou une fille et Même si c'est pas le cas, on voit bien que les représentations elles sont comme ça, le garçon, la force, fille plutôt esthétique. Là, vu que les personnes ne sont pas en opposition physique, les unes par rapport aux autres, est-ce que ça favorise pas d'une certaine manière la mixité ?
Il n'y a pas de contact physique direct, mais il y a bien, quand tu vas avoir des compètes, ils sont bien tous sur les mêmes voies à concourir en même temps. Donc un peu comme, je sais pas si tu peux comparer à de la course à pied.
Ouais,
tu pars d'un point A, tu arrives à un point B. Quoi. Ouais. Et du coup, tu as bien le même chemin à parcourir. Mais effectivement, il n'y a pas de contact physique de corps à corps.
Bah, et comme les quelques sports mixtes qui existent, alors ça s'appelle plutôt des sports innovants, mais ça fait 10 ans qu'on appelle ça des sports innovants, mais dans ces sports-là, il y a l'ultimate, le frisbee, du coup, il n'y a pas de contact, mais en tout cas, c'est un sport mixte d'équipe. Et après, il y a d'autres sports comme le kinball. C'est un sport avec un ballon énorme où tu joues, tu as 3 équipes.
Le quidditch aussi, non ? Je crois.
Ouais, mais je sais pas si c'est considéré comme un sport.
Bah, si j'ai écouté une émission de radio, il disait que dans les sports mix, il y avait le quidditch.
Ok.
Comment ça, le quidditch ? Comment va, moi ?
Je pourrais pas expliquer.
Comment les gens font pour voler ?
Mais ils veulent pas, du coup ils courent. Je crois que j'ai jamais vu un match de quidditch. Mais il y a des vrais cours, enfin il y a des vrais clubs de.
D'accord.
Ouais. Et il y a aussi le tchoutball, c'est une variante du hand avec 2 trampolines de chaque côté. Et c'est un sport mixte et qui est hyper bien comme sport, mais c'est pareil, dans les règles, il n'y a pas de contact. Mmh. Et donc, du coup, en fait, c'est hyper bien pour jouer en mixité. En tout cas, il n'y a pas de rapport de force direct entre les personnes qui jouent dans chaque équipe. Mmh. En tout cas, ça ne crée pas d'inégalité entre. Les participants et participantes.
Mmh. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que... C'était ta question. Hein. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que l'escalade ou les sports que tu viens de décrire font que la mixité est plus facile ou qu'en tout cas le rapport homme-femme est plus facile dans la pratique. Parce qu'il y a plein d'autres sports où il n'y a pas de contact. Et genre le tennis, il ne rentre pas en contact. Et pourtant, il y a 2 tennis, j'ai l'impression. Moi, maintenant, quand je regarde Roland Garros ou je sais pas quoi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 tennis, quoi. C'est entre les commentateurs, les interviews, c'est assez hallucinant. Donc, je sais pas, quoi. Après, il faut réfléchir à d'autres sports, mais.
Au tennis, c'est pas un truc genre pour les hommes, c'est 3-7 et pour les femmes, c'est 1-2-7.
Ouais.
Si.
Il y a ça. Il y a l'histoire de la jupette, là, on en parlait tout à l'heure. C'est un autre temps, ce sport, pour moi, maintenant.
Je sais pas, il y a une autre pratique sportive où, du coup, tout ce qui va être barème de notation ou d'évaluation, c'est les mêmes pour les hommes et les femmes, c'est l'équitation. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait plus de femmes qui pratiquaient, mais c'est bien un des sports qui reste mixte dans la pratique. Enfin, dans l'évaluation de la pratique, je sais pas comment dire autrement. Mais...
Moi, juste pour en revenir au tennis, il me semble qu'il y a quand même des doubles mixtes qui doivent exister.
Ouais.
Donc même si y a pas mal de choses qui restent archaïques et qu'il y a quand même des différenciations hommes-femmes, j'ai l'impression que vu que là il y a pas de, enfin qu'il y a toujours ce côté pas de contact, on peut se permettre de faire jouer en même temps sur le même terrain.
Mais oui, ça, c'est plutôt les sports mixtes qu'on disait tout à l'heure. C'est C'est un regard de la société qui fait que plutôt c'est des sports sans contact, donc on peut mixer les hommes et les femmes.
C'est bon, ils vont pas se jeter l'un sur l'autre.
C'est ça, mais qu'il y a plein d'autres sports où, bah, en fait, on n'en sait rien, on n'a jamais fait le test. Donc on ne sait pas si ça pourrait fonctionner d'avoir des équipes mixtes dans plein de sports collectifs. Et vas-y, je te laisse la parole.
Ben non, mais c'est, du coup, je me pensais à ça, où, pour contrer ce qu'on est en train de dire là, mais du coup, c'est ce que, pour venir dans le monde du cirque, mais du coup, là, c'est la partie artistique, où là, il y a de la mixité. Si on arrive sur... des trucs d'acroportée, de trapèze duo et compagnie. Il va y avoir de la mixité, mais avec souvent le même schéma. De l'homme qui va être porteur, parce que du coup, il faut avoir la force pour être porteur, et la femme qui va être voltigeuse, parce qu'il faut de la souplesse et compagnie. Donc il y a bien un truc sportif, il y a bien un truc de mixité, mais avec quand même chaque genre qui a bien sa place, mais sans en train de bouger, et c'est cool. Mais là, il y a les deux qui vont ensemble.
J'en profite pour faire une petite transition. On va justement, après une petite pause musicale, parler de quelles sont les pistes pour faire évoluer les choses. Et donc là, pour le moment, je vous laisse avec London Calling des Clash. Petite référence à Billy Elliot.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Vous êtes toujours sur JTFM 91.2 et vous écoutez Vers l'éducation nouvelle, comme tous les deuxièmes et quatrièmes samedis du mois à 17h. Là, je vous propose qu'on écoute la dernière interview que vous avez réalisée, les filles, et qu'on discute ensuite des leviers pour faire avancer les choses.
Salut, est-ce que tu pourrais me raconter une expérience où tu t'es sentie discriminée en tant que femme dans le foot ?
Oui, bah en fait ça fait 2 ans que je joue dans un club où il y a des garçons et des filles, des équipes de garçons et des équipes de filles. Ça fait 2 ans qu'on est très bien classé par rapport aux garçons. Et ça fait 2 ans que malgré notre classement, bah, les garçons ils ont le meilleur terrain, ils ont le terrain officiel et les filles bah, on se retrouve à jouer sur le terrain de merde. Donc voilà.
C'est énervant.
C'est écœurant même, c'est vraiment écœurant parce que la ligue est de notre côté, mais le club fait en sorte que les mecs puissent jouer sur le meilleur terrain. Mmh.
Oui, parce qu'il faut rappeler que la ligue de foot, dans le nouveau règlement de cette année, en tout cas c'est la meilleure équipe qui doit jouer sur le terrain principal.
Tout à fait. Donc on est hors règlement, mais vu que c'est des garçons, bah, en fait, ça justifie le fait qu'ils puissent jouer sur le meilleur terrain.
Mmh. Et tu penses que t'aurais des idées de solutions pour que ça change dans les prochaines années ?
Bah, je pense que la solution, il faudrait qu'on la trouve nous-mêmes, c'est-à-dire que les filles elles prennent le pouvoir au sein des clubs pour qu'on ait plus de...
Une place plus importante
une
dans les clubs.
Une place plus importante et pour qu'on puisse aussi décider et pas juste subir. Après, ça demande de l'investissement et il ne faut pas qu'on attende que ça vienne des clubs parce que ça ne viendra pas.
Il faut que ça vienne de nous en tant que femmes, de prendre des places dans les clubs.
Se battre tout le temps, tous les jours, voilà, même dans des clubs, même dans nos loisirs.
Ok, merci.
Ok. Et donc, vous voyez quoi comme levier pour faire avancer les choses ?
Abattre le patriarcat.
Elle l'a fait.
Ah, c'est beau de dire ça, mais... Après, il faut trouver la manière de faire.
Ouais.
Bah non, peut-être pour revenir sur ce que la copine disait dans l'interview, une des choses qu'on pourrait faire en tant que femme, c'est de, oui, d'investir des instances dans des clubs, à des petites échelles, en fait, pour faire bouger les choses. Mais rien que ça, c'est... Bon, en tout cas, nous, on a essayé de le faire dans notre club de foot il y a 3-4 ans, on a dit qu'on voulait rentrer au CA, qu'on voulait s'investir dans le club pour que les féminines soient représentées. Et puis, on nous a fait gentiment comprendre que peut-être on avait autre chose à faire que de rentrer dans les instances. Et je pense que les dirigeants, ils avaient peur parce que... oui, ils avaient peur qu'on vienne pour nous, les joueuses, pour et qu'on remette en cause... leur fonctionnement, le règlement, du coup, ouais, ils ont fait en sorte qu'on rentre pas dans les instances du club pour faire changer les choses. Mais en tout cas, ça c'est un des leviers, c'est que il y a plus de femmes qui représentent des équipes féminines dans les clubs sportifs pour faire évoluer les choses.
Puis comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi un vrai rôle des médias. On l'a vu avec la Coupe du Monde féminine là, qui a été hyper médiatisée, ben, ben, plus que par le passé, je pense. Et, oui. Et du coup, on est quand même dans une société aujourd'hui, malheureusement, que si les choses elles passent pas par les médias, c'est pas impossible, mais ça prend plus de temps. Mmh. Et du coup, comment ce canal de diffusion, il arrive aussi à prendre sa place là-dedans et voilà.
Ouais, moi, je pense qu'il faut aussi une espèce de dose de scandale. C'est-à-dire que quand il y a eu la Coupe du Monde l'an dernier féminine... Alors oui, on en a parlé dans les médias, ça a été retransmis, mais on a fait pas mal d'expériences avec une copine d'aller voir les matchs dans les bars. Alors déjà, il n'y avait pas grand monde. Et en plus, généralement, le gérant du bar, le barman, ne coupait pas le son de la musique du bar. Donc on avait sur un écran de télé le match en fond de la France. Et voilà, puis ça discutait autour. Enfin, on a vu beaucoup de choses comme ça où en fait, finalement, on s'est dit c'est un peu un flop. Et ce qui a été regardé, c'était par exemple l'équipe de foot féminin américaine qui a dit nous on n'y va pas si il y a pas tel truc. Nous on veut être payé comme les hommes. Enfin, qu'on vraiment fait parler d'elle dans les médias. Et j'ai l'impression que c'est pour moi plus ça qui a fait un peu commencer à bouger les choses que simplement. J'ai l'impression qu'il faut que ça se batte, il faut qu'on... Là, quand on parlait de... C'est Inde, hein, c'est ça qui... qui dit qu'il faut, aller dans les instances, tout ça. Et je pense qu'en fait, carrément, ce match-là, on aurait dû dire, on joue pas. Et les gars, vous savez quoi? On n'a pas le bon terrain, c'est pas la bonne heure, je sais pas quoi et tout. Bah, c'est simple, on joue pas, en fait. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut un peu, pour faire bouger les choses, que ça se passe comme ça. Parce que sinon, vous avez essayé de le faire, on vous a dit bien gentiment, bon, les filles, vous êtes gentilles, mais on n'a pas forcément envie que vous veniez. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut... Alors oui, il y a la médiatisation, etc. C'est sûr que c'est hyper important. Mais j'ai l'impression qu'il faut des coups de gueule, il faut des femmes qui se battent, qui exigent.
C'est ouais. Comment nous, les femmes, on se sent légitimes à faire les mêmes demandes que les hommes dans le monde du sport. Comment on se dit qu'on a le droit, nous aussi, d'exiger des choses correctes, comme tu parlais, le bon terrain, les bons horaires, les bonnes tenues, enfin j'en sais rien, mais comment on peut autant taper du poing sur la table qu'eux.
Ouais.
Moi, je suis assez d'accord parce que je trouve que l'interview est assez marquante. Le terrain, là, vous y avez le droit. C'est la règle. Vous êtes la meilleure équipe. Vous êtes meilleur que les hommes. Voilà. Donc, vous avez le droit d'avoir ce terrain-là. Et quand bien même, ce truc-là n'est pas accepté. Donc, même il existe des lois ou des règles qui tendent à équilibrer la balance, il faut quand même, et ça demande une énergie supplémentaire encore, aller dire, allez, on fait respecter les règles, c'est notre droit, c'est dommage d'en arriver là, mais on voit bien que si jamais on se cantonne à dire, bon bah, les filles ont droit à ce terrain, et bah, vous ne l'avez même pas, quoi. Ça veut dire que...
Ouais, c'est ça, il faut se battre deux fois plus, en fait, à chaque fois, mais pour tout, en fait, j'ai l'impression. Et c'est vrai que si ça passe pas par un peu la force, un peu... Et puis après, c'est comme tu dis, il faut oser, enfin, il faut... C'est pas évident. Et puis, franchement, nous, enfin, en tout cas, pour ma part, je joue dans ce club-là, j'aime bien venir et tout ça, mais en fait, je suis pas assez investie pour ce combat-là, en fait. On sait déjà, ça fait un de plus. Et du coup, j'y vais pas. Et du coup, je me tais. Mais c'est vrai que... On est écrasé par tout ça et pourtant on a une équipe avec quand même beaucoup de grandes gueules, beaucoup de filles qui sont à même d'avoir les mots, d'avoir la rhétorique, d'avoir qui ont étudié ce à quoi on avait droit ou pas mais pourtant c'est fou quoi. On se tait et on va jouer quoi sur ce terrain. Enfin.
Et moi je repère un autre levier et c'est qu'il y ait plus de femmes qui soient dirigeantes ou coach dans plein de clubs parce que je pense que ça joue aussi dès l'enfance. On voit que c'est quasiment que des hommes qui sont éducateurs sportifs et qui vont être coach de basket, de hand ou de n'importe quel sport. C'est surtout des hommes et peu de femmes. Et moi, c'est quelque chose que je trouve dérangeant. Par exemple, nous, dans notre club de foot, on est, je sais plus, entre 30 et 40 femmes. Et on n'a que des dirigeants hommes. Alors, oui, ça s'explique parce qu'il y a peu de femmes qui coachent. Je pense que les femmes, elles ne se permettent pas de se dire « bah non, je ne me sens pas légitime dans ce sport-là, déjà pour jouer. » Alors, en plus, si c'est pour entraîner. Et moi, je trouve ça... Et d'un côté, c'est hyper chouette de nous d'avoir des hommes qui sont dirigeants et bénévoles. Mais après, on se retrouve toujours confronté à plein de sexisme ordinaire. Et il faut toujours batailler pour faire en sorte que ça change. Et donc voilà, qu'il y ait plus de représentation dans les médias, que ce soit plus visible et que du coup, ça permette à plus de femmes d'aller travailler ou être bénévoles dans le milieu du sport, ça va permettre aux petites filles, aux femmes d'aller pratiquer. N'importe quel sport, et voilà.
Et de se rendre compte que c'est possible.
C'est ça.
On va vous dire au revoir, et on va vous laisser profiter du son qui va suivre. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
À dans deux semaines.